Je vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11. Nous lirons à partir du verset 19. Et je commence donc aujourd'hui une série sur l'église d'Antioche et à travers elle, considérer aussi ce que pourrait être, si nous le voulons, les prochaines étapes de la vie et du ministère de notre église. Acte 11, donc, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, c'est la côte nord-africaine, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a quelques années de cela, en fait ça remonte à 5-6 ans, je prêchais un message de vision intitulé « Le modèle de l'Église de Jérusalem ». Et pendant toutes ces années, nous nous sommes appuyés, tant bien que mal, sur ce modèle, pour la conduite et l'édification de notre Église. Parmi les quelques points que nous avions retenus ensemble, il y avait l'idée de complémentarité et d'équilibre entre l'Église qui se réunit au temple et l'Église qui se réunit dans les maisons. Et nous avons donc développé, travaillé à nos réunions d'ensemble, nos cultes, et nos réunions, nos programmes à l'Assemblée, et puis nous avons aussi développé notre réseau des groupes de maisons. On se rappelle aussi de l'importance de l'enseignement. Ils persévéraient dans l'enseignement. Bien sûr, nous avons continué notre ministère de prédication et puis mis en place aussi différentes classes de formation des disciples et même des serviteurs qui s'étofferont encore l'année prochaine de nouveaux programmes. Il est dit aussi qu'ils persévéraient dans les prières. Et c'est là quelque chose d'important. Ma maison se rappelait une maison de prière. Et nous avons développé la prière, notamment à travers le ministère ciel ouvert de l'Église, les veillées de prière, les nuits de prière, les groupes de prière qui sont là sans cesse dans l'Église, priant et intercédant pour nous. Il est parlé aussi de la communion fraternelle. C'est voilà un enjeu bien difficile dans le contexte parisien que de développer la communion fraternelle où nos vies sont tellement pleines, où nos locaux ne permettent pas facilement ce genre de choses, difficile d'organiser un repas, difficile de faire une action, ceci, cela. Longtemps j'ai prié, Dieu nous a exaucés en nous accordant de trouver juste à côté, là derrière notre local, ce joli loft dans lequel nous pouvons accueillir quasiment 500 personnes tous les dimanches qui se retrouvent là pour partager un moment. Mais la communion fraternelle, ce n'est pas que ces quelques instants, la communion fraternelle, c'est aussi, à travers l'exemple de l'église de Jérusalem, l'aide aux nécessiteux. Dans l'Église, premièrement, à ceux qui ont besoin de conseils financiers, d'assistance dans différents domaines, et nous sommes heureux de prévoir cela, de pouvoir accueillir, comme il s'est arrivé plusieurs fois, des nouveaux migrants, de pouvoir aussi être avec ceux qui cherchent un emploi, et Dieu nous permet d'exercer cette solidarité, cette communion fraternelle les uns envers les autres, qui passe aussi par tout le service pastoral, les visites, le département des visites, mais aussi tout ce qui est accompli au niveau pastoral pour accueillir et prendre du temps les uns avec les autres. Merci Seigneur pour tout ce qui existe. Nous avons donc travaillé depuis maintenant plus de 6 ans dans cette vision, dans ce projet. Des ministères ont été semés, plantés, depuis ils se sont bien développés et ils portent de plus en plus de fruits, ils en porteront de plus en plus. Gloire à Dieu pour tout cela. Maintenant, il nous appartient de ne pas nous figer dans ses acquis. Il nous appartient de ne pas nous contenter de cela. Le danger serait de finir par tourner en rond, et même plus, d'asphyxier la croissance que Dieu nous accorde. Parce que c'est ce qui se passa à Jérusalem. Certes, l'Église avait accompli sa mission, il est écrit que la ville était remplie de l'Évangile. Et l'Église de Jérusalem était une Église remarquable, tout était en place, bien structurée. avec des responsables efficaces dans leur ministère, une église et des leaders qui étaient craints et respectés de tous. Cependant, au point où nous en sommes, entre acte 8 et acte 11, cette église finissait par manquer de souffle. Elle était confortable, bien établie dans son cadre, mais elle commençait à y étouffer. De nombreuses activités, de nombreux ministères aussi se levaient. Mais quelle place pouvait-il trouver, puisque tout était déjà pourvu? Alors le Seigneur permit, acte 8, des persécutions, des oppositions, afin d'amener cette église à faire le pas suivant. Et c'est ainsi qu'après la mort d'Étienne, l'église entra dans une phase de transition que je qualifierais en fait de passage de relais progressif qui, à cause de, je ne vais pas dire son opposition, mais de ses difficultés à rentrer dans le plan de Dieu, amena le Seigneur à transférer le centre vital de la croissance et de la mission de l'église de Jérusalem à l'église d'Antioche. Je le dis d'une autre manière, Dieu prit le chandelier apostolique de l'église de Jérusalem et il le confia à l'église d'Antioche. Pendant quelques semaines, nous allons donc étudier ensemble cette église d'Antioche, en essayant d'en tirer quelques principes qui pourront nous inspirer quant à l'église que par la grâce du Seigneur, nous bâtirons ensemble dans ces prochaines années. Avant de parler d'Antioche, restons encore quelques instants à Jérusalem. L'église de Jérusalem était une église structurée, puissante, en paix et extrêmement généreuse. Elle était née du réveil de Pentecôte et avait connu les miracles et la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Sous la conduite des apôtres et du Saint-Esprit, elle avait connu une croissance extraordinaire. Je vous rappelle cet enseignement que j'ai donné il y a quelques années qui nous montre qu'au début, les verbes de croissance sont des verbes d'addition dans les actes. Et puis au bout de quelques temps, ce sont devenus des verbes de multiplication. Croissance additive, et on est passé à une croissance par multiplication. C'est extraordinaire ce qui se passait à Jérusalem. Cette église avait aussi surmonté les oppositions. Plusieurs fois, les apôtres avaient été emprisonnés, menacés. Les chefs religieux juifs avaient tenté de les faire taire. Elle avait aussi surmonté les crises de croissance, comme celle de la distribution de la nourriture aux veuves. Et avec sagesse, l'église avait su répondre en établissant des diacres. C'était donc une belle église, une merveilleuse église qui avait rempli Jérusalem de l'Évangile. Malgré tout, une question fondamentale restait en suspens, celle de la grande mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus de rajouter aussi, et vous serez mes témoins à Jérusalem, mais aussi en Judée, en Samarie, en Galilée, et même jusqu'aux extrémités de la terre. L'église de Jérusalem était donc une merveilleuse église, une grande église en termes de personnes, une église avec des miracles, des signes, avec des ressources financières considérables, une église qui avait été capable de surmonter les tensions, les oppositions, une église qui avait impacté sa communauté, une église qui était capable de lever des ministères puissants. Malgré tout, qu'en était-il de la mission que Jésus lui avait confiée? Alors, acte 9 nous dit que l'église de Jérusalem était en paix et en croissance par l'assistance du Saint-Esprit. Mais c'était aussi à ce moment-là déjà une église qui menaçait d'étouffer dans ses limites. Et c'était aussi, et peut-être allez-vous trouver le verbe un peu fort, mais je le maintiens, C'était une église qui gaspillait des ressources spirituelles, humaines et même financières en les sous-employant. Alors je sais que ce que je vais dire là, d'abord ce n'est pas évident pour moi parce que je ne suis vraiment pas doué dans ce genre de domaine, mais je sais aussi que pour la plupart des Parisiens, vous n'avez jamais mis les mains depuis très longtemps sur un volant et donc passer un boîtier de vitesse, vous ne savez même pas ce que c'est. Mais l'église de Jérusalem, à ce moment-là, était une église qui tournait en sous-régime. On est en sous-régime lorsque on a passé les vitesses, on est allé de l'avant, mais il arrive un moment où on n'arrive plus à avancer à la vitesse qu'on devrait, et du coup le moteur commence à baisser. 2005, 2000, 1005, et le moteur est quelque part sous-exploité. Jérusalem, l'église de Jérusalem, ou plutôt, pardon, oui, Jérusalem, était bien trop petite par rapport à la puissance de l'église qui était dans cette ville. Je le redis, Jérusalem, la ville, était bien trop petite par rapport à la puissance qu'il y avait dans cette église. Et pour cette église, un changement de vitesse s'imposait. Elle devait relâcher la puissance sous-utilisée en la portant ailleurs. Je dirais qu'au point où nous en sommes, si nous ne faisons rien, notre Église ressemblera de plus en plus à celle de Jérusalem. Une Église qui grandit avec une réelle action du Saint-Esprit, avec des ressources ministérielles, humaines, matérielles, financières. Mais pour autant, si nous en restons là, une église qui va bientôt friser avec le sous-régime. Autrement dit, notre moteur sera sous-exploité. Les chevaux humains qui sont au milieu de nous sont complètement inutiles parce que nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin. Et ce qui pourrait se produire, c'est que nous étouffions, sans le vouloir, la dynamique de notre Église. Et vous savez, quand un moteur est en sous-régime, ce qui risque de finir à un moment ou un autre par arriver, c'est de caler. Au risque de perdre notre croissance et nos ressources ministérielles, les hommes et les femmes que Dieu envoie mais que nous n'utilisons pas, au risque de passer complètement à côté de notre mission. Notre mission, ce n'est pas cette église, ce bâtiment, ce lieu. Notre mission, c'est Paris. Jérusalem était sur le point de caler. Elle risquait d'étouffer la croissance extraordinaire que Dieu lui a accordée. Mais laissez-moi vous dire qu'elle n'a pas été la seule dans l'histoire. Combien d'églises, de dénominations qui ont connu le réveil, et même encore aujourd'hui, ont fini en sous-régime. Beaucoup de puissance, mais aucun espace pour qu'elle s'exprime. Notre vision ne peut se limiter à Bastille. Notre mission, c'est Paris. Et il faut absolument nous engager ensemble à aller au-delà du cadre de Bastille. Il faut le dépasser, sans quoi il va nous étouffer. Alors le temps est venu, peut-être pour un temps, mais en tout cas, le temps est là déjà, c'est sûr, pour notre Église ici à Bastille, de rétrograder, de changer de vitesse afin de se redonner de l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? De prendre la puissance qui est sous-utilisée dans cette Église mais qui est là, et la mettre ailleurs. Dieu voulant, dans 3 semaines, je reviendrai plus en détail dans un culte très particulier sur ce que je vous propose de mettre concrètement derrière ces mots. Priez pour cela, c'est important. On aura vraiment un culte le 22 mai sur ce que nous verrons ensemble, Dieu voulant, à la rentrée. Alors, maintenant, question. Qu'est-ce qui faisait donc que dans cette église si magnifique de Jérusalem, qui avait tout pour accomplir l'œuvre de Dieu, on en soit arrivé dans une sorte de situation d'impasse? Ce n'était pas la volonté de Jésus, en tout cas, qu'elle se retrouve comme ça, sur le point d'étouffer. Dès le début, Jésus avait placé devant eux une vision large, ouverte. Elle débutait à Jérusalem, mais elle s'ouvrait jusqu'aux extrémités du monde. Jésus leur avait dit, vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut, mais ensuite, vous partirez. On parle souvent de ceux qui ne sont pas restés à Jérusalem, qui sont partis trop tôt, 500 avoir entendu la promesse, 120 dans la chambre haute. Mais après, interrogeons-nous sur tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui ne sont pas partis. Le problème de l'église de Jérusalem, quelques années après la Pentecôte, c'est qu'elle s'avérait incapable de sortir de son cadre, de sa conception du monde, c'est-à-dire sa façon d'aborder la culture, les relations entre les peuples, la géographie, la religion, le monde tel qu'il est. Elle avait réduit le monde à juste ce qu'on appelle, le mot est très contemporain, je suis heureux de l'utiliser, son petit paradigme. Elle en était là, prisonnière de sa façon de voir le monde. Ce n'était pas la façon de Jésus. La vision de Jésus est ouverte. Elle est large. Qu'allait faire Jésus avec l'église de Jérusalem? Bon, il n'était pas question pour lui de tirer un trait sur elle. Mais je vais vous dire, il n'était pas question non plus d'accepter le statu quo. Parfois on dit, laissez du temps à l'église, laissez du temps, laissez passer une génération, 2 générations, et vous verrez, avec le temps, les gens vont changer, ils vont s'y faire, et puis le temps venant, ils commenceront, on pourra faire quelque chose. Je vais vous dire, c'est quelque chose que j'ai entendu depuis des dizaines d'années. Vous savez ce que la Bible nous montre? C'est que la mission est urgente. Et qu'il n'était pas question pour Jésus que le champ de l'Église se limite à Jérusalem et à quelques territoires aux alentours. Alors, il allait tout faire pour sortir cette Église de son cadre. On va le voir à plusieurs reprises, il va la forcer à réfléchir, à prendre conscience et à se dire, mais il faut qu'on se bouge. Malheureusement, cette Église, s'en est avérée incapable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur n'a pas attendu la génération suivante. Mais il a pris quelques-uns du milieu d'eux et il les a envoyés ailleurs. Et au bout de quelques mois, il a pris le chandelier apostolique et il l'a transféré de Jérusalem à Antioche. Parce que la mission est prioritaire. Si l'Église ne veut pas avancer, le Saint-Esprit avance. Parce que chaque fois que nous attendons un petit peu, attendons que ceci se passe, attendons que les choses commencent à mûrir dans nos vies, dans nos cœurs, lui, le Saint-Esprit, voit des gens mourir. Et nous, ça fait tellement d'années qu'on se dit, oh, il faut tranquillement que les générations passent et on va se renouveler. Et au bout de quelques temps, on pourra faire quelque chose. Et combien de centaines et de milliers de gens sont morts sans avoir entendu l'évangile parce qu'il fallait d'abord que les choses évoluent dans l'église tranquillement. Qu'une église accepte de changer de paradigme, c'est jamais une chose facile. On veut changer le monde. Mais souvent, on est moulé dans notre paradigme. Moulé dans notre représentation du monde. Moulé dans nos façons de faire. Moulé dans ce que nous considérons être notre héritage. Alors, si c'est déjà difficile pour concevoir un autre paradigme, c'est encore plus difficile pour y rentrer. Comme le Seigneur est plein de grâce et de sagesse, il n'a pas voulu les bousculer d'un seul coup. Il a voulu y aller par petites touches pour les amener à réfléchir. Alors, il a suscité un réveil en Samarie. Là, chez les cousins, Philippe est allé prêcher. Et ensuite, Pierre et Jean, les apôtres, sont venus. Notez qu'ils y sont allés, mais ils sont retournés malgré tout à Jérusalem. Et quelque temps plus tard, alors que Pierre était en train de faire sa tournée pastorale en Judée, dans Acte 9, Pierre n'était plus un apôtre, c'était un, je ne veux rien dire péjoratif, mais quand on considère ce que c'est un apôtre, Pierre était en tournée pastorale. Visitant les uns les autres. Il était complètement à côté de son appel. Alors le Seigneur est venu là vraiment le secouer par la vision extatique de la nappe. Tu as faim, Pierre? Eh bien, je vais te montrer ma nourriture. Une nappe remplie des animaux purs et impurs de la terre, vous le savez. Et puis après, Pierre est allé chez Corneille, le païen, l'officier romain. Et on va le voir, bien sûr, la nouvelle se répandit. Et c'est là qu'éclata une nouvelle crise autour de la question de l'évangélisation des non-juifs, des païens. Et là, dans ce chapitre 11, dans le passage que nous n'avons pas lu, mais qui précède notre lecture, l'Église est là face au défi du pas suivant, comme nous le sommes nous-mêmes. Le chapitre 10 des Actes rapporte donc comment Pierre entra dans la maison de Corneille pour y prêcher la parole et comment le Saint-Esprit descendit au milieu d'eux. Et le chapitre 11 nous dit ce qui se passa après. Pierre de nouveau rentra à Jérusalem. Vous savez qu'il en fallut, pour que Pierre rentre dans sa mission apostolique. Qu'est-ce qu'il fallut pour que Pierre devienne un apôtre? Il fallut presque qu'il perde la tête. Ayant été libéré par les anges de la prison, il nous est dit que là, il réfléchit, enfin. Et qu'est-ce qu'il fit après avoir réfléchi? Enfin, il quitta Jérusalem et il partit dans un autre lieu. Il en fallut même du temps pour lui. Mais là, encore une fois, il rentra à Jérusalem. Et la nouvelle de ce qui s'était passé chez Corneille l'avait devancé, vous le voyez au verset 1er du chapitre 11, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient eux aussi reçu la parole de Dieu. Ils en étaient informés avant même que Pierre arrive, il n'y a même pas besoin de WhatsApp à l'époque pour que les nouvelles circulent plus vite que les hommes. Et vous savez, quand les nouvelles circulent plus vite que les hommes, généralement on se fait une opinion. Et le verset 2 nous dit qu'il y avait une partie de cette église de Jérusalem qui s'était fait une très mauvaise opinion. Et c'est un parti très particulier. Nos versions secondes traduisent d'une manière pas tout à fait extraordinaire. Ils disent les frères circoncis. Mais Darby est plus précis et plus proche du grec. Il dit ceux de la circoncision. Par là, il évoque un certain parti qui avait beaucoup d'influence, certainement il y avait des anciens pharisiens, des anciens sacrificateurs, un parti qui était là dans l'église de Jérusalem et qui considérait que pour devenir un chrétien, il fallait d'abord devenir un juif. Et leur vision était très centrée sur Israël et c'était eux les tenants de l'église de Jérusalem. Et quand Pierre revient les voir, alors tout de suite, ça y va, grief sur grief. Comment ça se fait? Tu es entré chez des incirconcis et comble du comble, tu as mangé avec des païens. Pour eux, c'était un casus belli. Pierre venait d'enfreindre des règles religieuses séculaires. Et ces hommes étaient irrités contre Pierre. Nous sommes dans une génération comme dans beaucoup d'autres qui nous ont précédés, où il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens qui sont irrités. irrités contre l'œuvre du Saint-Esprit qu'ils ne comprennent pas et dans laquelle ils ne veulent pas rentrer. Que Dieu nous garde de cette irritation. La manière dont Pierre a réagi est admirable, surtout pour l'homme qui, quelques années plus tôt, avait tranché de son épée l'oreille du serviteur Malchus. Notre Pierre, qui avait l'habitude de partir au quart de tour, le voilà qui prend les choses d'une manière tout à fait paisible. Il n'éleva pas la voix, mais tout simplement, il en vint au fait, rien qu'au fait qu'il exposa. Et il leur dit, mais moi, vous savez, je n'ai rien demandé. Pierre, si tu avais simplement demandé, ça aurait été merveilleux, mais c'est vrai, tu n'as rien demandé. Tu étais simplement sur ta terrasse et voilà que la vision est apparue. Les animaux du monde dans une nappe. Et nous comprenons quoi ? Que là, le Seigneur est en train de lui rappeler ce qu'il lui avait dit tout au début. Faites de toutes les nations des disciples. Cette nappe, c'est le nouveau paradigme. C'est l'Église. L'Église, c'est la nappe. Et à l'intérieur de la nappe, il y a des purs, des impurs, des juifs et des non-juifs. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'était le nouveau paradigme spirituel. Et vous savez que le Seigneur lui a donné que peu de temps pour méditer tout cela, parce que sitôt après, voilà que les hommes envoyés par Corneille frappé à la porte et pressé Pierre de le suivre chez leur maître. Et il les suivit. Et puis, vous savez, ensuite, Pierre rapporta aux frères de Jérusalem comment les choses se passèrent dans la maison de Corneille, la prédication jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux tous et même sur Corneille et ses amis. Oui, le Saint-Esprit était donc accordé à des païens, à des gentils. Ils recevaient le même don que celui que les apôtres et les frères avaient reçu à Jérusalem et en Judée. Et c'était là quelque chose d'absolument inconcevable jusqu'à présent. Alors Pierre conclut devant eux, mais les frères, comment pouvais-je m'opposer à cela? Par là, il voulait leur dire, mais moi j'ai été débordé dans cette histoire. J'ai complètement été dépassé, comme dirait un autre, ça s'est fait à l'insu de mon plein gré. Alors si vous n'êtes pas d'accord, appelez le ciel. Le don du Saint-Esprit avait été dans cette histoire l'argument décisif. Jusque-là, c'était le travail de l'homme. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. À l'écoute de ces faits, tous se calmèrent et la controverse prit fin, provisoirement, parce que toute l'épître aux Galates, c'est une épître au sujet de ceux de la circoncision. Donc, ça a pris des années pour que ça s'arrête. Et ils conclurent, verset 18, acte 11, 18, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Et c'était là une déclaration de la plus haute importance. À ce moment-là, l'Église juive s'ouvrait au plan rédempteur de Dieu pour toutes les nations. Je veux dire, elle s'y ouvrait. Ça ne veut pas dire qu'elle y entrait. Mais en tout cas, cette déclaration, c'était une prise, peut-être carrément une crise de conscience que Dieu était en train de les bousculer. Mais je vais vous dire, ça n'a pas pour autant produit un grand emballement. Dieu avait fissuré leur paradigme traditionnel et il les obligeait à en accepter un beaucoup plus vaste, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se sont engagés dans une action planifiée d'évangélisation, d'envoi de missionnaires et d'implantation d'églises en territoire païen. Ok, le Seigneur a fait ça pour Corneille, ouais, bon, mais enfin, Corneille, d'abord, il habitait en Judée, et puis c'est un homme qui craignait Dieu, qui avait une façon de vivre qui n'avait rien à voir avec les païens, c'était pas un idolâtre, c'était pas quelqu'un qui avait une vie immorale, pas comme ces gens qui habitent à Rome, à Antioche, à Alexandrie, ça, ça n'a rien à voir, lui, c'est un cas particulier. Alors le Seigneur n'a pas attendu que ces gens veuillent bien vouloir mettre en place un comité missionnaire. Mais il en a pris quelques-uns parmi eux et il les a envoyés ailleurs. Et quelques temps plus tard, la nouvelle de nouveau parvint à l'église de Jérusalem. Voilà que Dieu était en train de susciter un réveil parmi les juifs et les non-juifs. La main du Seigneur était sur eux et un grand nombre se convertissait. Et laissez-moi vous dire, pas dans n'importe quel endroit, mais le pire de tous, Antioche, C'est comme si aujourd'hui le Seigneur suscitait à Paris un réveil Place Pigalle ou rue Saint-Denis. Mais je rigole pas quand je dis ça. Parce que le niveau de moralité à Antioche était vraiment très bas. Et c'est là que Dieu a choisi d'agir. Le Seigneur nous surprend toujours, c'est certain. C'est pas l'Église qui a choisi, c'est Dieu qui a envoyé des hommes. C'est la main du Seigneur qui était sur eux. Ce n'était pas les ressources de l'Église, c'était la main du Seigneur qui était avec eux. Et quand l'Église de Jérusalem a appelé, a appris la chose, notez-le bien, j'y viendrai plus en détail, peut-être je reviendrai en plus en détail, mais c'est la, après, je crois que c'est la première fois, la seule fois où il dit qu'ils envoyèrent un homme. Parce que jusqu'à présent, quand c'était à Samarie, ils avaient envoyé deux hommes. Pourquoi ? Parce que Jésus leur avait dit, allez deux à deux. Et le travail missionnaire se faisait deux à deux. Et quand ils envoient qu'un homme, pour moi, ils n'ont pas l'intention que cet homme fasse un travail missionnaire. Mais s'ils n'en envoient qu'un, c'est en lui disant, tu seras un observateur. Et tu viendras nous dire ce qui se passe. Mais s'ils avaient voulu qu'il y ait vraiment un travail missionnaire, ils ont envoyé deux hommes. L'homme qu'ils ont envoyé était certainement très excellent, c'était le meilleur. Le Saint-Esprit savait, il a gardé les choses, il a envoyé Barnabas. Mais notez, Barnabas n'était pas un apôtre à cette époque. Ce n'était pas Pierre ou Jean ou un des disciples, c'était qu'un frère parmi les autres frères. Comme pour dire, ils s'y sont investis, mais bon, on ne va pas trop en faire. C'est à cause de ce mauvais vouloir que le chandelier apostolique et missionnaire fut déplacé et confié à une autre église, celle d'Antioche. Dieu n'avait pas attendu que la génération passe. La mission était urgente. Et la conséquence pour l'église de Jérusalem, c'est qu'elle devint une église historique. C'était bien sûr une caution morale et spirituelle. La doctrine était à Jérusalem, mais la puissance n'y était plus. La vision n'était plus. La mission n'y était plus. Et quelques années plus tard, au lieu que ce soit l'église de Jérusalem qui soutienne ses enfants, c'était les enfants qui étaient obligés de soutenir l'église de Jérusalem parce qu'elle n'avait plus de ressources. Tout était parti. Je finis en disant que beaucoup d'églises et de dénominations qui ont connu un temps de réveil et de croissance forte se sont malheureusement enfermées dans leur paradigme initial et n'ont pas été capables de faire le pas suivant, en franchissant ce cadre dans lequel elles ont commencé et connu la bénédiction. Et beaucoup d'églises, même en France, de belles églises, sont devenues des églises historiques. Ce sont des cautions, ce sont des repères. Et vous savez quoi ? Ce sont des églises qui se conjuguent à l'imparfait. Leur histoire se conjugue à l'imparfait. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus bénies par le Seigneur parce que Dieu continue d'agir, de parler, de faire du bien, d'encourager. Mais elles ont perdu le chandelier missionnaire et apostolique. Ma plus grande crainte, c'est cela. De perdre ce chandelier. Parce que je serais incapable, nous serions incapables de franchir le cadre dans lequel nous sommes bien organisés et établis aujourd'hui. Ce cadre, nous l'avons bien rempli. Il nous faut le dépasser. Sinon, c'est Dieu qui nous dépassera. Qui nous laissera là où nous sommes pour que nous continuions à raconter notre histoire, mais à l'imparfait. Moi, je veux la raconter au futur. Si l'église de Jérusalem a donc été un modèle pour notre église, il est temps maintenant d'aller plus loin, de tourner nos regards vers l'église d'Antioche et de rentrer dans un nouveau cadre, bien au-delà des limites resserrées de notre église. Je ne veux pas que notre église soit délimitée par ses murs. Je veux que nous soyons dans une église ouverte, notre vision séparée. Sommes-nous prêts ensemble à rentrer dans cette vision ? qui nous amènera au-delà de nos préjugés, de nos capacités, de notre confort, de notre paradigme habituel. Allons-nous y entrer ou resterons-nous là en laissant à d'autres la poursuite de la mission ? Parce que c'est certain, si nous ne faisons pas le prochain pas, Dieu suscitera d'autres ministères, d'autres églises, et nous passerions à côté de notre vocation et nous deviendrions une église historique. Nous rentrons dans un temps apostolique où notre vision doit maintenant dépasser notre paradigme habituel, nos repères habituels, pour s'élargir aux défis de cette ville. Êtes-vous prêt à suivre avec nous le défi que le Saint-Esprit nous lance ? Dieu trouvera-t-il au milieu de nous des hommes, des femmes, avec la vision de Christ, avec une réelle vision missionnaire, avec le désir non pas d'être bien là ensemble dans ce bâtiment, mais de remplir cette ville de la parole de Christ. Amen. Je viendrai donc plus en détail dans 3 semaines sur ce projet que je vous présenterai. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour l'église de Jérusalem qui est une source d'inspiration. Quelle belle église! Mais tu nous montres aussi, mon Dieu, les dangers de nous enfermer dans des acquis, dans un confort. Seigneur, pour toi, la mission est prioritaire. Parce que tu as donné ta vie pour des hommes et des femmes en grand nombre. Seigneur, nous ne voudrions pas passer à côté de notre mission. Nous ne voudrions pas devenir une église historique qui se conjugue à l'imparfait. Nous ne voudrions pas perdre le chandelier de la croissance, de la bénédiction que tu nous as donnée. Nous voulons, Seigneur, te dire, mon Dieu, avec toi, nous franchirons des murailles. Avec toi, Seigneur, nous franchirons le cadre. Seigneur, donne-nous cette force, donne-nous cette vision missionnaire. Nous voulons remplir cette ville de Paris et même au-delà de l'évangile de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce nous parle encore. Merci Jésus, amen. Je vous prie de prier ces temps-ci, nous avons besoin de vos prières. Nous avons des rendez-vous importants à venir, alors merci de nous soutenir pour que tout ce projet puisse se mettre en place avec la grâce de Dieu. Merci.